Le journal Adia Chipoukou. D'importants mouvements de population signalés à Djougou en Ituri. Selon les notables de Mahagui, plus de 11 000 déplacés affluent vers Nioka. Il ferait d'éventuels affrontements entre les FRDC et les éléments de Peter Karim. Les écoles sont restées fermées ce vendredi à Ngandajika au Kasaï oriental. Les enseignants de ce territoire ont boycotté les cours. Ils s'opposent à la décision du ministère de l'enseignement primaire et secondaire de rattacher leur sous-division à la province scolaire Kasaï 3 basée à Cabinda. Dans la page internationale de ce journal, vous suivrez l'extrait du discours du président Denis Sassou Nguesso à New York. Ce dernier va faire aujourd'hui un plaidoyer pour demander plus d'engagement dans la lutte contre le sida en Afrique. Voilà tout pour les titres. Tout de suite, les détails. Bonjour à tous. En Ituri, les opérations militaires des FRDC qui se déroulent dans le nord du territoire de Djougou font des milliers de déplacés. Ces derniers affluent vers la localité avoisinante de Nioka, dans le territoire de Mahagui. Information confirmée par les notables de Mahagui. Selon ces notables, près de 11 000 déplacés vivent sans assistance. Témoignage de Ukelo Mokingi, notable de Mahagui, au micro de José Deschartemenga.
La guerre se déroule dans le territoire de Djougou, vers Dera. Mais les retombées et les conséquences sont supportées par la population inoffensive du territoire de Mahagui, de la cité de Nioka. Une bonne partie de la population s'est déplacée, y compris même la mission catholique qui s'est déplacée de Nioka à Zengo, toujours dans le territoire de Pandoro. 1826 ménages. Et ces 8026 ménages peuvent contenir à peu près 11 000 personnes éparpillées dans les différents centres. Et 6 000 dans la collectivité de Walendu-Wat. Nous venons de voir encore toutes ces organisations internationales humanitaires qui peut-être vont s'occuper pour intervenir, parce que la population a abandonné ses champs, a abandonné les tout. Mais en tout cas, pour le moment, la situation est vraiment catastrophique dans ces localités.
Ouvrons le volet humanitaire pour signaler d'abord ces cas d'exploitation des mineurs à Lulingu, au sud Kivu. Des enfants travailleraient encore dans ce centre minier perdu au fin fond du territoire de Chabunda. Ces mineurs affirment eux-mêmes qu'ils travaillent dans ces mines pour se payer leurs frais de scolarité. Claude Kianza s'est rendu à Lulingu, à plus de 300 km de Bukavu. Suivez son reportage.
Est-ce que Mungu on a raconté à Kulipa Kumasomo?
Ces plaintes sont celles des enfants de Lulingu, un centre minier d'environ 1000 habitants. Ici, leurs parents ne cultivent plus la terre à cause de l'insécurité et n'ont plus de quoi payer les frais scolaires. Les enfants sont obligés de se prendre en charge. Témoignage de Ngando Salumu, élève en 3e primaire à Lulingu.
Nous n'avons rien, il faut nécessairement creuser la cassiterite pour avoir de quoi payer les études. Et pourtant, nous n'avons pas le temps de le faire, car quand on sort de la carrière, il y a aussi les études qui nous attendent à la maison, et cela nous déstabilise.
Et pour ceux qui arrivent à payer ses frais d'école, ils étudient dans des conditions déplorables. Écoutons à ce sujet le pasteur Lokoto Sadiki. Tu peux observer d'abord les élèves. Certains d'entre eux ne sont presque pas habillés. Ils n'ont ni cahier, ni stylo. Mais les politiciens nous disent que le Congo est riche et plein de minerais. Ce sont ces politiciens qui amassent beaucoup d'argent. Mais ici, d'où provient toute cette richesse, il y a beaucoup de souffrance. Face à cette situation, les enfants de Lulingu, du moins ceux qui n'ont pas fui dans la forêt, lancent un appel au gouvernement. Ils demandent des bancs, des objets scolaires et les paiements réguliers de leurs enseignants. Bukavu, Claude Kianza, Radio Okapi.
Des difficultés de fonctionnement à la banque de sang de Kalemie. Cette banque n'a plus de stock de sang alors que la demande est élevée. Depuis sa création en février dernier, la banque n'arrive toujours pas à attirer les donneurs. Reportage Expedit Mwambamubi.
Le centre de transfusion sanguine de Kalemie n'a pas bonne mine. Pourtant, le jour de son inauguration en février dernier, plusieurs dizaines de donneurs s'étaient présentés spontanément. Les tests avaient retenu alors 28 donneurs. Un mois plus tard, le nombre de nouveaux donneurs est passé en dessous de 10. Il y a quelques jours, l'armée belge a mis un véhicule à la disposition du centre pour aller prélever du sang auprès d'une quinzaine de bénévoles de la Croix-Rouge. Des bénévoles habitant le village de Tundwa à 25 km de Kalemie. Pour les responsables du centre de transfusion, les difficultés actuelles se situent non pas au niveau des moyens, mais plutôt au niveau des mentalités. Docteur Jean-Marie Chulumbu.
Mais le problème est plus de la compréhension de la population. Parce que ceux-là qui ont peur de venir donner leur sang et qui disent on saura que je suis VIH positif, Il y a ceux-là aussi qui disent, si je donne de mon sang, je risque de mourir. C'est-à-dire, tout ça, c'est un problème d'information, c'est un problème de sensibilisation.
Le centre de transfusion sanguine de Kalemi a besoin d'une moyenne de 10 poches par jour. 40 donneurs pour une ville de plus de 150 000 habitants, cela apparaît comme une goutte d'eau dans la mer. Expédie Mwambamoubi, Kalemi, Radio Okapi.
Quittons le Katanga pour le Kasaï occidental avec la reprise des travaux d'adduction d'eau dans la cité de Beneleka à environ 130 km de Kananga. Ce projet de service national d'hydraulique rurale appuyé par l'UNICEF permettra à plus de 20 000 ménages d'accéder à l'eau potable. Marie-Chantal Lumba, reportage.
Selon l'UNICEF et le Service national d'hydraulique rurale, le matériel est au complet pour finaliser le projet d'adduction d'eau. Ils n'attendent que la contribution de la population qui s'élève à 10% du coût du projet. Le chef de la cité de Beneleka déclare que la population est prête à s'impliquer avec de la caillasse, du sable et du moellon. Ce malgré le fait qu'elle avait perdu espoir suite à l'arrêt des travaux causés par la guerre. Selon la même source, la réalisation du projet permettra à la population de contourner la pente raide de plus de 100 mètres de dénivellation pour accéder aux sources d'eau. D'après l'UNICEF, les travaux sont déjà réalisés à 60%. Au total, 42 bornes fontaines. La grande partie de la tuyauterie est placée depuis 1997. Il ne reste que le château d'eau et des travaux de finissage. Ce projet d'adduction d'eau avait débuté en 1990 avec le financement de l'USAID, une organisation internationale américaine. En 1995, l'UNICEF reprend les travaux qui s'arrêtent en 1997 avec la fin du programme eau et assainissement au sein de cette agence des Nations Unies. Les habitants, quant à eux, ont constitué un comité d'eau pour gérer et entretenir la structure. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, les écoles sont restées fermées ce vendredi à Ngandajika, au Kasaï oriental. Les enseignants de ce territoire ont boycotté les cours. Ils s'opposent à la décision du ministère de l'enseignement primaire et secondaire de rattacher leur sous-division à la province scolaire Kasaï oriental 3, basée à Kabinda. Ces enseignants menacent de durcir le mouvement si la hiérarchie de l'éducation nationale ne reconsidère pas sa décision. Ceci fait craindre une perturbation des épreuves de fin d'année. Le point avec Chris Moukand.
Tous les élèves arrivés ce matin à l'école ont été priés de regagner la maison. Le syndicat des enseignants du Congo en sigle SIECO, section de Ngandajika, a décidé qu'aucune école se trouvant sur l'étendue du territoire d'Ngandajika ne devait ouvrir ses portes ce vendredi. Raison, exiger du gouvernement de transition une réponse au mémorandum des enseignants remis au vice-président Jean-Pierre Bemba lors de son passage à Ngandajika le 17 mai dernier. Dans ce document, les enseignants du territoire d'Ngandajika demandent au gouvernement d'annuler l'arrêté du ministère de l'EPSP qui rattache la sous-division de Ngandajika à la province scolaire du Kasaï oriental 3, basée à Kabinda. Les enseignants de Ngandajika estiment qu'il n'y a aucune proximité entre eux et la juridiction qu'on leur impose. Ils demandent à être rattachés au district de Chilenge qui présente moins de difficultés pour eux, une moindre distance à parcourir et des liens culturels plus solides. Pour le chef de division scolaire de la province scolaire Kasaï oriental 3, Dieudonné Mpoché Kibambe, cela ressemble à de l'anarchie. Ngandajika a de tout temps été rattaché au district de Kabinda. Il appelle tous les enseignants à revenir à la raison pour ne pas perturber la tenue des tests nationaux de fin d'études primaires, TENAFEP en sigle, et les autres épreuves de fin d'année et qui auront lieu très bientôt. Mbouche Maï, Chris Mukand, Radio Kapi.
Katanga, à présent précisément à Kavoya, localité située à 140 km de Kamina. La peste porcine fait rage dans cette localité. 73 porcs sont morts au cours de la semaine passée. La présence de cette maladie a été confirmée par le médecin vétérinaire du district du Olomami après descente sur terrain. Cependant, Kamina n'a actuellement aucun vaccin pour combattre cette maladie. Pour éviter la propagation de la peste porcine, le médecin vétérinaire appelle les éleveurs à respecter un certain nombre de mesures, notamment lutter contre la divagation. On écoute le docteur Mutombo Bomba, médecin vétérinaire. Il a été joint au téléphone par Madeleine Waila.
Au lieu que les animaux restent libres en divagation, il faut que les animaux soient élevés dans les enclos, dans les abris. Nous avons demandé de séparer les malades, les animaux sains, qu'ils commencent à alimenter les porcs, leur donner les aliments dans leur enclos, au lieu de les laisser libres à la recherche des aliments et de l'eau. Nous avons interdit l'entrée des autres porcs provenant d'ailleurs dans cette localité. Il en est de même pour la sortie des porcs. Nous avons demandé aussi que tout cas de mortalité soit détruit par enterrement. Avant notre arrivée, au moment des abattages, les éleveurs commencé à envoyer les porcs ailleurs pour les vendre. Ils boucanaient la viande et cette viande-là contribuait aussi à la propagation du mal.
Il est 12h11 à Kinshasa, 13h11 à Kamina, où vous nous suivez depuis hier sur 104.3 MHz. Nous poursuivons ce journal dans le volet militaire. Les soldats du contingent indien de la MONUC ont reçu hier à Beni des médailles de mérite de l'ONU. Ces médailles leur ont été remises par les généraux Satia, commandant de la brigade du Nord Kivu, Gabriel Amissi, commandant de la 8e région militaire, ainsi que Madame Caroline Koroma, chef de bureau de la MONUC Beni, en présence du maire de la ville de Beni, Julien Paloukou. Étienne Mouindo nous parle du travail accompli par ce bataillon indien.
Arrivé au mois de janvier dernier dans le secteur de Lubero-Beni, le 5e bataillon indien de la MONUC vient à l'espace de 5 mois de gagner le cœur des populations et des autorités de la région. Pour le général Gabriel Amissi, commandant de la 8e région militaire, de Kanyabayonga à Eringeti, en passant par Lubero, Butembo et Beni, le 5e bataillon indien participe à la sécurisation de la population et ses biens. Le casque bleu indien effectue en collaboration avec les FRDC des patrouilles nocturnes à Beni et même à Goma, chef-lieu de la province. De son côté, le général Satia, commandant de la brigade Nord Kivu, le 5e bataillon s'est impliqué dans la consolidation des positions conquises sur les rebelles ougandais des ADF Nalu lors de l'opération combinée FRDC casque bleu indien en décembre 2005. Le 5e bataillon a aussi conquis le cœur et les esprits de la population en apportant secours le 8 mars et le 5 avril dernier aux victimes de l'ouragan à Ouicha et de l'incendie dans la ville de Beni. Cependant, les commerçants du secteur de Butembo-Beni déclarent que le défi à relever par les casques bleus reste la sécurisation de la route Kanyabayonga-Goma, objet de multiples pillages par les coupeurs de route. Etienne Mouindo, Butembo, Radio Capi.
Toujours dans ce registre, au moins 4000 armes individuelles seraient encore détenues par les populations civiles dans le territoire de Massissi et dans la ville de Goma. C'est ce qu'affirme une organisation locale, ACPD, Action pour un Congo pacifié en développement. Cette association déclare avoir déjà récupéré depuis février au moins 400 armes qu'elle a déjà remises aux autorités politiques et militaires de la province du Nord Kivu dans le cadre de son programme Armes contre Tôle. Mais l'opération de récupération d'armes moyennant des tôles s'est subitement arrêtée le mois dernier et nombreux sont les habitants qui disent avoir remis leurs armes sans pour autant bénéficier des tôles promises. Cependant, M. Baene Ndala Hische, qui est vice-président de l'ACPD, rassure au micro de Jules Ngala.
Nous reconnaissons avoir reçu des armes en leur remettant des actes de reconnaissance. Ils doivent se fier à ces actes parce que ces actes-là tiennent liés de 20 tôles. Quiconque aura perdu son acte que nous lui avons donné devra connaître qu'il a perdu ses 20 tôles. Ils doivent rester calmes parce que nous sommes en train de voir comment leur remettre ces tôles avant le 20 juin. Le stock est en route et dans moins d'une semaine, deux semaines, les tôles seront déjà ici à Goma et nous allons nous acquitter de nos dettes vis-à-vis de ces gens-là qui auraient déjà remis leurs armes sans qu'ils aient eu les tôles. L'opération doit être poursuivie jusqu'à ce qu'on puisse désarmer les civils sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. On pourra même aller au-delà de la province du Nord Kivu.
Revenons dans la capitale pour signaler la suspension en milieu de semaine de l'administrateur directeur général de l'Office des routes, Elingo Muntogbo, ainsi que l'ADG adjoint de l'Office des mines d'or de Kilomoto, Roger Saringa. Selon le ministre des portefeuilles, Célestin Vunabandi, il est reproché à l'ADG de l'Office des routes d'avoir gratuitement mis à disposition d'une formation politique le bac de l'Office qui relie la ville de Bukavu à l'île d'Idjui sur le lac Kivu, cela pour des fins de campagne électorale. Quant à l'ADGA de l'Okimo, il lui est reproché, toujours selon le ministre du portefeuille, le détournement de 170 000 dollars affectés à un usage personnel. Célestin Vunabandi précise que des enquêtes sont en cours et le résultat sera rendu public au courant de la semaine prochaine. Dans la page internationale, le président Denis Sassou Nguesso plaide pour plus d'engagement dans la lutte contre le sida en Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine et président du Congo-Brazza fera ce plaidoirie ce vendredi à New York où se tient une conférence internationale sur le sida et à laquelle participent plusieurs délégués des sociétés civiles. Je vous propose d'écouter ici un extrait de l'interview qu'il a accordé hier jeudi à la radio de l'ONU à New York.
Nous sommes venus ici aux Nations Unies pour faire connaître la position de l'Afrique sur ce dossier du sida. Nous pensons que tous nos partenaires internationaux prendront en compte ces préoccupations de l'Afrique parce que le moment est venu pour que l'on aille aux actions concrètes et non pas que l'on s'arrête, comme souvent c'est le cas, aux déclarations générales ici aux Nations Unies. Nous luttons pour qu'en Afrique, il y ait la possibilité de produire pour les peuples d'Afrique des antirétroviraux, qu'il y ait la possibilité de produire pour l'Afrique des préservatifs. C'est pas la grande technologie extraordinaire. Produire en Afrique des préservatifs pour l'Afrique et produire en Afrique en quantité importante des moustiquaires imprégnés. Augmenter les capacités de production en Afrique.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.